tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter aujourd'hui l'émission Bibliomanie, présentée par Valère Marie Marchand. Et avec à la technique la complicité de Flo Descailloux, que vous connaissez tous. Aujourd'hui, nous recevons Henriette Chardac pour Anatole France, une résurrection. Ça vient de paraître aux éditions Le Passeur. On va tout vous dire sur Anatole France, dont c'est l'année. C'est l'année, Henriette Chardac. Bonjour.
Bonjour, oui, Valère. C'est l'année. Pauvre France est mort le 12 octobre, voilà. Il y a un siècle.
Il y a un siècle. Un auteur, un écrivain institutionnalisé, c'est tellement une institution de son époque qu'il a un purgatoire assez long, Anatole France, Henriette Chardac. Alors, d'abord, ma première question, qu'est-ce qui vous a mis qu'est-ce qui vous a attiré chez cet homme, chez cet écrivain? Quel a été le déclic pour vous? Parce que c'est pas, finalement, ça va pas de soi, ça va pas non plus.
Alors, il y a trois choses.
Oui.
La première, mon père avait Anatole France, une collection qui rampait sur les murs, et je le voyais rire, sourire et relire, Anatole France. Et j'ai encore l'odeur du papier marbré à l'intérieur avec les illustrations. Aujourd'hui, on n'en fait pas. La deuxième chose, c'est que Anatole France a exactement les mêmes goûts que moi. Et il s'intéresse à Pythagore, il s'intéresse donc à la Grèce. Et c'est un emmerdeur. Je suis un peu une emmerdeuse. Et c'est un empêcheur de tourner en rond. Un engagé, on va dire. Et qu'est-ce qui a vraiment déclenché la chose? C'est que d'un côté, j'ai lu Un cadavre, c'est-à-dire tous les auteurs, peintres, poètes, romanciers, surréalistes, qui ont mis volontairement France au purgatoire, le traitant d'étron, applaudissant sa mort. Et j'ai lu, le premier livre que j'ai lu s'appelait L'île des pingouins, que je vous recommande. Et je n'arrivais jamais à descendre à la bonne station quand je lisais. J'arrivais au terminus et je repartais en arrière et je loupais à nouveau la station. L'île des pingouins, c'est une histoire drôle. C'est l'humour au troisième degré de France. Il prend un personnage qui s'appelle Maël et qui arrive à convertir bien des gens sur la planète. Or, un jour, il devient presque aveugle. Et il va baptiser des pingouins. Et ces pingouins, puisque Dieu ne peut pas dire que Maël est un mauvais homme, plutôt un saint, il va rentrer ces pingouins dans l'histoire de France. Et France revisite l'histoire de son pays avec drôlerie et comme un justicier. C'est-à-dire, il va parler, par exemple, de l'affaire Dreyfus. Et le nom change, c'est Pirotte.
Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Alors, il faut dire donc qu'Anatole France est né en 1844, le 16 avril. Il naît à Paris, Quai Malaquais d'ailleurs, c'est un pur parisien. Et son père, alors vous me parliez de livres, vous me parliez de la texture des livres, du goût des reliures, la reliure c'est très important. Son père était donc un fils de paysan, si j'ai bien compris, le sixième enfant d'une famille de paysans. Il était un peu analphabète, on va dire ça comme ça.
Ah, totalement.
Et il est devenu libraire, donc faut le faire.
Bah oui.
Faut le faire. Déjà, le père, il a un parcours, faut que vous nous présentiez son père. Anatole France, son père, qui est devenu libraire. Et donc, le jeune Anatole a baigné dans ce milieu de bouquiniste, on peut dire aussi, de bouquinerie, j'allais dire.
Alors, son père s'appelait Noël, parce qu'il est né un jour de Noël.
Voilà.
Et son vrai nom, c'est Thibaut. Alors, il est le sixième d'une grande fratrie de vignerons, paysans, fermiers, etc. Et donc, il ne veut pas devenir bouseux. Il adore l'Anjou, c'est très beau. Mais il veut quitter cette famille.
Ouais.
Il s'engage comme soldat du temps de la royauté, je précise, parce qu'il était très royaliste. Et il va tomber sur un colonel qui écrit des livres et qui va être en réalité son maître. Et va lui apprendre à lire et écrire. Et il lui dit, et ce n'est pas une boutade, si un jour tu ouvres une librairie à Paris, je serai ton meilleur client. Et cette librairie s'est appelée la librairie de France. Et ainsi, François Anatole Jacques Thibault est devenu Anatole France.
Anatole France. Alors, ses rapports avec son père, voilà, un jour, il m'a prévenu sèchement, ne dis à personne que j'étais le sixième enfant sacrifié pour être garçon de ferme. Et ce père, bon, il a des liens complexes avec lui, hein, mais lui-même, Anatole France, d'abord, je vais préciser pour nos auditeurs, c'est un roman, Henriette Chardac. C'est un roman où c'est une interview imaginaire d'Anatole France, une interview en 2024. Anatole France reviendrait et vous l'interviewez par écran interposé. Et c'est votre personnage qui s'appelle aussi Tara. Faut aussi voilà, c'est la rencontre entre hier et aujourd'hui via l'interview. Alors, le choix de l'interview aussi, ça, c'est. Est-ce que vous qui aimez le théâtre, est-ce que c'était volontaire?
Non, au départ, j'ai écrit une biographie.
Voilà.
Et j'avais plein de questions qui donnaient une foultitude de notes. Parce que il n'est pas tout blanc, tout noir, Anatole, dans sa vie privée, par exemple. Et aussi, dans son engagement, il faut qu'il ait des preuves avant de se battre pour les Arméniens, pour se battre pour Dreyfus et Zola. Et moi, je sais que j'avais proposé plein de sujets à la télévision quand j'y bossais, et on me disait souvent « Ah non, mais ça c'est has-been, ou c'est trop vieux, etc. » Et pour beaucoup de gens, Anatole France, c'est la station de métro. Mmh. Bien. Quand j'ai relu mon livre, je me suis dit « Et si une personne interroge Anatole France aujourd'hui, et que je ne fais que prendre ses réponses d'hier, parce que je n'ai pas triché ?» Et la fin explique que ça a été possible, si vous suivez bien mon raisonnement.
Oui, et il faut dire aussi pour les auditeurs, qui diront peut-être vos lecteurs, qu'il y a une interview imaginaire, mais avec des extraits des œuvres d'Anatole France. Donc ça nous met directement dans sa pensée, dans le flux, j'allais dire, dans le fleuve de la pensée, parce que c'est un fleuve, Anatole France. Qui voit loin. Est-ce qu'on peut dire que c'était un visionnaire?
Oui. Par exemple, il est né en 44, il a donc connu la guerre de 70, il a été soldat, un peu planqué, mais soldat quand même. Il allait chez les gens dire éteignez les lumières parce que vous allez recevoir des bombes. Et après, il y a eu la Commune. Et ensuite, il a réfléchi et il a écrit une chose quand même impressionnante. Il a dit, parce qu'il voulait ces États-Unis d'Europe, si on ne fait pas les États-Unis d'Europe, on ne sera pas une force, on sera donc une faiblesse, il y aura une guerre mondiale. Si, après cette guerre mondiale, on n'a toujours pas compris que il fallait faire les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire l'Europe, il y aura cette deuxième guerre, mais si, après la deuxième guerre, on n'a toujours pas compris, et c'est là où Tara lui demande, et alors, qu'est-ce qui se passera? Parce que nous, on a déjà vécu dans l'histoire la Première et Deuxième Guerre mondiale. Il ne va pas dire qu'il y en aura une troisième. Non, il répond dans le passé, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle. Si on n'a toujours pas compris comment faire les États-Unis d'Europe, il n'y aura plus d'Europe. Et aujourd'hui, on peut se poser la question des empires qui veulent désosser l'Europe. Hein. Je citerai aucun des empires. Chacun fait son cinéma politique. Mais il a raison. L'Europe est une force, une diversité qui a accumulé des strates et des strates d'histoire et de culture. Et si on n'est pas unis, eh ben on n'existe plus.
Alors il a aussi été, ce que ça ne veut pas, peut-être pas nos auditeurs, à l'origine de la Ligue des droits de l'homme.
Oui.
Alors, c'était un homme, un humaniste. Un humaniste très lettré, parce que quand même, il a écrit près d'une centaine de livres. Hein. C'est énorme.
Et des contes et des articles. Oui. Il m'a fallu 10 ans pour tout parcourir réellement. Et là où il fait très fort, c'est qu'il est moderne. Quand il veut défendre les Arméniens qui se font massacrer par les Turcs, il s'agit d'un génocide, puisque c'est des centaines de milliers d'Arméniens et aussi de Turcs qui vont mourir. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une invitation dans un beau quartier pour les Arméniens. Et pour être sûr que les gens vont beaucoup donner d'argent, d'abord, il fait jouer des pièces où on parle de l'Arménie, mais il y a une galerie de mère à l'enfant tuée. C'est-à-dire qu'il va toucher directement le cœur pour faire comprendre que ce n'est pas trois lignes dans un journal. Ce sont des individus, un par un, qui ont perdu leur vie et que nous, par notre lâcheté, on a laissé faire.
Donc c'est un écrivain engagé, c'est pour lui, écrire est une action, Henriette Chardac ?
Oui, c'est à la fois un jeu, un refuge, car il est très suicidaire. C'est un hypersensible qui va renoncer à la fin de sa vie au suicide pour aider sa deuxième épouse qui a un cancer du sein. Et il va tout faire pour la guérir et elle sera guérie après lui. Donc c'est quelqu'un, c'est comme les clowns, il rigole, il est très généreux.
Il a une ironie, hein. Oui. Une grande ironie.
Il fait des cadeaux, il vit d'une façon un petit peu débridée, il compte pas trop ce qu'il dépense dans ses cadeaux et ce qu'il s'offre à lui-même. Mais en lui, ça pleure de beaucoup de choses. Et c'est un clown triste, au fond.
Il va perdre aussi, il aura une fille unique qui perdra de son vivant, donc ça, ça va être aussi une grande tristesse de sa vie. Mais on sent que c'est un créateur. Alors voilà, il y a une phrase que je crois qui est figure au tout début de votre livre, c'est une phrase d'Anatole France. « Dire ce qu'on pense est un plaisir coûteux, mais trop vif pour que j'y renonce jamais. » Dire ce qu'on pense est un plaisir coûteux, mais trop vif pour que j'y renonce jamais. C'est presque une phrase libertaire.
Mais c'est pour ça que je suis ravie d'être interviewée par vous, parce qu'on l'a traité de libertaire, on l'a traité de communiste, on l'a traité de bourgeois, on l'a traité de traître, mais en vérité, il avait des idées socialistes et libertaires.
Et plus loin, je crois, ils disent « La plus belle des louanges, Rabelais, Voltaire ont été des sceptiques ». Parce que lui, il prend toujours, je pense que c'est ça qu'on lui reproche, Henriette Chardac, il a toujours une sorte de sens critique. Il ne se laisse, il n'est pas fanatique. Voilà. Il est de gauche, mais il n'est pas fanatique. Il est vraiment, quand on lit Les Dieux ont soif, qui viennent d'être édités d'ailleurs.
Les Dieux ont soif
chez Calman Levy, donc l'éditeur historique d'Anatole France, hein, je crois.
Qui n'a pas lu mon livre.
Bon.
Mais c'est pas grave.
Avec une préface de Guillaume Métayer.
Oui, un spécialiste de France.
De France. Oui. Une très belle édition, d'ailleurs, qui pourrait être complémentaire de votre livre. Si les gens veulent avoir. C'est vrai que c'est le chef-d'œuvre, paraît-il.
Ah oui, c'est Kundera. On a trouvé que c'était un des plus grands livres qu'il ait lu. Et il faut relire Kundera. Et très curieusement, je suis allée voir, j'étais invitée à voir Ubu Roi, une adaptation de Ubu, de Jarry, avec qui Anatole France a travaillé à une époque dans un journal. Et là, j'ai eu une révélation très étrange. Devinez laquelle ? Ubu Roi, c'est le résumé drôlatique du drame des dieux ont soif.
Ah oui.
C'est l'histoire d'une femme qui pousse un artiste, dans Les Dieux ont soif, c'est un peintre, à devenir un des plus grands criminels de la Révolution, qui parce qu'il ne doute pas, parce qu'il n'est pas sceptique, parce qu'il ne se remet jamais en question,
exactement,
il va tuer ses voisins et faire du chiffre.
Oui, parce qu'aussi, il a une sorte d'esthétisme morbide, je trouve. Mais dans le livre, ce qui ressort, moi, je n'avais pas lu, je ne suis pas une lectrice d'Anatole France, je l'ai lu, et ce que je retiens, c'est qu'on retient vraiment les portraits. C'est un excellent portraitiste.
Ah oui.
C'est presque pictural.
Il aurait voulu être, finalement, scénariste vers la fin de sa vie. Et je conseille à vos auditeurs d'écouter Michel Bouquet, je crois que c'est sur France Culture, qui fait la lecture
des Dieux ont soif. Ça, il faut, et ça mérite vraiment d'être lu. Bon, enfin, nous, on vous lit aussi, Henriette Chardac. Donc, Anatole France, une résurrection au passeur, c'est une conversation. Et ça tombe bien, puisque France était, Anatole France, quand même le roi de la conversation. Comme dit Sacha Guitry, celui qui possède pas des livres d'Anatole France dans sa bibliothèque, la bibliothèque est bancale.
C'est ça.
Mais c'est quand même quelqu'un qui avait le sens de la répartie.
Il avait le sens de la répartie Et lorsqu'il avait été trop méchant, il s'en excusait publiquement. C'est ça le doute. Et il a fait rencontrer Proust, ses premières traces écrites.
Oui.
Et Proust a été édité par son éditeur, donc Calman Levy.
Et il a fait la préface du premier livre de Proust. Hein.
Voilà. Et en fait, il parlait pour mettre en avant ce qu'il aimait et ce qu'il avait repéré. Il parlait très rarement de lui, très rarement de lui.
On peut dire que l'exercice d'admiration, c'était un sport favori d'Anatole France ?
Oui, je pense...
L'un des sports favoris d'Anatole France.
Oui, je pense qu'il se cachait derrière les sentiments et les bénéfices qu'apportait un être humain à la société. Donc, il surlignait pour dire en creux, je l'apprécie parce qu'au fond, je suis comme lui. Un exemple, il a sauvé, mais moi j'en ai la chair de poule, ça m'arrive souvent quand je repense au passé de ce genre. Il a sauvé des milliers de soldats de la guerre de 14-18 qui auraient dû être exécutés parce que par trouille ou par faiblesse, ils n'avaient pas réussi à continuer le combat. Ils avaient vu trop d'atrocités. Et chaque fois qu'on lui disait non, il rouvrait une porte et il disait « Mais un tel est très bon, le tuer, c'est rajouter du crime au crime. » Et il savait, et il l'a écrit pendant la guerre, de 14-18, que cette guerre rapportait aux industriels de l'armement.
Oui, bien sûr.
Et il ne s'est pas gêné. Et c'est un lanceur d'alerte permanent.
Et un réfractaire.
Et un réfractaire, mais parce qu'il rêve, et c'est un grand rêveur, d'une société plus juste, où il y aurait place pour la culture, la santé, etc., etc.
C'est un utopiste.
Oui, et aujourd'hui, il répond exactement à ce qu'on voit la France patauger dans est-ce qu'on licencie, on nationalise, Non, c'est pas ça. France, il répond. Il faut qu'il y ait un engagement et que chacun se comprenne et qu'on décide ensemble. Donc, les dieux ont soif, c'est tout l'inverse. C'est lorsque, de façon pyramidale, on décide ce qui est juste et beau, eh bien forcément, ça sera très laid.
Et ce qui est très fort dans les dieux ont soif, c'est la petite histoire qui rencontre la grande histoire, puisqu'on voit que cet homme, par idéologie, va exterminer, y compris son beau-frère. Enfin, tout le monde y passe. Il voit même plus ses proches, il voit même plus l'humanité. Et c'était un peintre raté.
et avant Hitler, hein.
Oui.
C'est-à-dire que Weiss a écrit un livre sur Hitler. Si on avait reconnu son talent, entre guillemets, peut-être qu'il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Mais c'est un visionnaire.
Anatole France, voilà. Ouais. On va faire une pause musicale. Et on va écouter quelques notes de musique, Henriette Chardin.
Merci. Debout sur le zinc.
Hey, salut, ça va?
Très bien, toi?
Eh hey, ouais, super.
Bon, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, je sais pas, on commence par quoi?
Et je crois qu'on commence par A comme Anatole.
Ah. Ah,
comme Anatole.
Anatole avait un âne, Anatole avait un âne, qui aimait les ananas, qui aimait les ananas, les abricots, les artichauts, et tout ce qui commençait par A. Anatole, quel drôle de gars. Ah, ah, ah.
C'est de Boris Vian. Vous pouvez y aller.
Ah, on peut y aller, on continue, voyez.
Eh bien, ça tombe très très bien.
Et oui.
Parce qu'Anatole, il écrivait à la fois ses mémoires d'enfant. On a la description de son lit avec les barreaux au fin fond de sa chambre, sa peur des ombres, etc. Et
livre de mon ami, non, c'est ça?
Oui,
non, c'est
ça. Ouais. Et il a écrit des contes pour enfants. Et il a été soudain bègue. Parce que son père, le libraire, avait pour principe de ne pas l'envoyer à l'école, mais d'avoir quelqu'un qui lui apprenne à lire et à écrire à la maison. Or, il a fait venir une criminelle, une dame qui allait avoir un procès et qui avait tué une petite fille et affamé ses sœurs. Et lui s'en doutait lorsqu'il a retrouvé son perroquet mort dans sa chambre. Donc, il faut savoir que France bégayait.
Oui, mais c'est très important. C'est un peu justement, je dirais qu'Anatole France, c'est un autodidacte. Son père était déjà un autodidacte. Peut-être qu'il n'a pas été au bout de toutes les connaissances qu'après le fils va avoir, parce que quand même, c'est un érudit, Anatole France, hein, Henriette Chardac.
Ah oui, ça.
Mais on lui reproche ça. C'est un peu un nouveau riche du savoir, quelque part.
Mais c'est-à-dire que...
Il le met même dans ses livres, oui. C'est-à-dire il a... Mais moi, je trouve ça, c'est un univers. Il commence, le premier livre, c'était Alfred de Vigny. Donc, il commence vraiment. Mais c'est vrai qu'il mêle vraiment ses connaissances, ses livres, sa vitalité à son écriture.
Ben, lui, c'est le vrai Wikipédia. Ma journaliste, ouais. Tara, elle va regarder sur Wikipédia, comme il est un peu sourd et bègue. il entend Béquipédia. Parce que il lit le grec et le latin. Et ce qu'il trouve fabuleux, c'est ce fil rouge depuis l'âge des cavernes. Qu'est-ce qui meut les gens? À quoi pense un chat? Il se pose des questions qu'on n'ose même plus se poser. Comment les chats dialoguent avec nous? Est-ce qu'on comprend ce qu'ils nous disent, en fait? Et donc, c'est un grand observateur et rien ne lui échappe. Et encore une fois, il va mettre en lumière des auteurs et des peintres. Bourdelle, par exemple, va être un ami. Steinlen, qui a peint les chats, qui habitait à un moment à Montmartre. C'est aujourd'hui, il présenterait sûrement une émission de télévision, genre Le Grand Échiquier.
Ouais. Alors c'est un homme, je dis, de justement de bibliothèque. Voilà ce qu'il est dit ou ce que vous lui faites dire, je ne sais plus, puisque vous l'imaginaire, l'image se mêle à la fiction. Ne prêtez pas vos livres, personne ne les rend jamais. Les seuls livres que j'ai dans ma bibliothèque, ce sont des livres qu'on m'a prêtés.
Alors c'est vraiment de lui. Ouais. Je n'ai rien inventé, mais et j'ajouterais qu'il n'avait aucun de ses livres dans sa bibliothèque.
Ça, c'est important.
Et son ego, il l'avait vraiment mis de côté. Surtout lorsque...
Donc, il ne se relisait pas.
Aussi. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, si vous voyez les cahiers, les feuillets d'Anatole France, qui sont corrigés, il le dit lui-même, au moins 7 fois. Donc, il découpe les corrections, il les colle, il les recolle, il refait, il recolle... Et c'est un puriste. Et c'est quelqu'un qui veut partir d'une pensée complexe à une phrase simple. Il n'y arrive jamais.
Pourtant, quand on lit, c'est limpide.
Oui. Hein. Non, c'est limpide. Mais pour lui, c'est jamais assez. C'est pour ça. Il voudrait presque une transmission de pensée.
Ouais. Mais est-ce qu'il une fois que le livre est publié, il peut pas intervenir.
Non, mais on lui il aura des republications où on lui demandera s'il veut corriger, il corrigera toujours, il dira toujours oui.
Ouais. Un travailleur infatigable. Voilà aussi. Alors là, je pense que c'est vous qui l'écrivez et qui le mettez dans la bouche d'Anatole France. C'était aussi la marotte de mon père que de trier les piles de journaux par jour, mois et année. Il publiait un journal, la Librairie de France, Quai Malaquais, au numéro 15. Nouvel érudit, il faisait imprimer des encarts pour acheter des bibliothèques pleines. Il possédait des raretés sur Robespierre, Danton et un exemplaire de l'ami du peuple, éclaboussé du sang de Marat. Alors ça, c'est...
Il n'y a pas une virgule à enlever. Mm. C'est ses souvenirs. Moi, je n'ai fait que l'interviewer, entre guillemets. C'est-à-dire que je sais, nous savons tous, que l'enfance démarre le projet de vie. Alors, il y a des freins et puis il y a des galops. Et il a une mémoire à trous. Alors, les dates, il s'en fiche. La chronologie, il s'en fiche. Mais quand il dit ça... C'est que, vraiment, son père était méticuleux à l'extrême, mais il ne voulait pas que son fils devienne écrivain. Il voulait lui léguer sa librairie. Et ils se sont fâchés à cause de ça. Il lui a dit, faut être un génie pour être auteur. Donc, autant que tu vends les livres des autres.
Oui, qu'il a un peu vendu malgré tout, puisque c'était, comme on dit, entre guillemets, un passeur. C'est quelqu'un qui... qui avait de l'admiration aussi en bandoulière. Il avait de grandes admirations, Anatole France. Voilà aussi ce qu'il écrit, je pense c'est lui qui l'écrit. Les bouquinistes déposent leurs boîtes sur le parapet. Ces braves marchands d'esprit qui vivent sans cesse dehors, la blouse au vent, sont si bien travaillés par l'air, les pluies, les gelées, les neiges, les brouillards et le grand soleil, qu'ils finissent par ressembler aux vieilles statues des cathédrales. Il y a tout dans cette phrase.
C'est beau, hein, ouais. C'est un travelling avant. Hier, je suis passée justement devant les boîtes vertes des bouquinistes et immanquablement, j'avais la pensée de France qui voulait qu'on les conserve parce que déjà, les bouquinistes des quais ont failli disparaître
oui.
de son temps.
Ouais, voilà. Nous, on a fait une émission là, il y a deux semaines sur les bouquinistes avec Thomas Morales. Et c'est vrai que, ben c'est, voilà. Mais ce qui est fou, c'est qu'une phrase d'Anatole France, elle est très enracinée, finalement. Elle va loin dans le futur, en même temps. Et elle draine à la fois le passé, le présent. C'est une phrase voyageuse aussi. C'est ça qui est très étrange.
Mais pour moi, c'est un cinéaste de papier. Mmh. C'est-à-dire que, je m'en suis rendu compte en le lisant. C'est qu'il y a des livres où je suis l'action et ces livres provoquent une émotion presque cinématographique, mais dans ma tête. Et je me dis que chaque lecteur se fait son film avec Anatole.
Est-ce qu'il ferait un bon personnage ? Est-ce que votre livre, Henriette Chardac, ferait un film ?
Moi, je rêverais d'un, ce qu'on appelait, parce qu'il était feuilletoniste, d'un feuilleton. C'est-à-dire, comme il a voyagé dans le monde entier... Je rêverais qu'il y ait une série sur Anatole France de son enfance, très difficile parce qu'on se moquait de lui. Il avait un grand nez, des oreilles un peu décollées, des cheveux assez touffus. On se moquait beaucoup de lui et lui voulait faire plaisir. Et il comprenait pas trop, il a mis du temps et à tracer son sillon. Et moi, je verrais bien un thriller où on comprendrait la fin de mon bouquin, comment, de temps en temps, une voix du futur l'interroge. Mmh. Parce que la fin du livre explique comment c'est possible.
Et oui, on le dit pas. Alors c'est vrai que, alors voilà ce qu'il dit, je pense que certains hommes sont faits pour la terre, d'autres pour les cieux. Nous nous ressemblions, optimistes, mélancoliques. Je pense au sujet de son père.
Oui. Hein? Sa mère était très neurasthénique, Anatole France aussi, et il avait l'élégance de masquer sa désillusion permanente sur le genre humain. Ce qui ne l'empêchait pas de s'inscrire comme un des premiers membres de les États-Unis d'Europe à Genève, de créer les droits de l'homme, de se battre pour que les instituteurs soient respectés et un syndicat, de sauver des soldats de la guillotine ou du feu, c'est-à-dire le peloton d'exécution. Et il est très discret et secret sur certaines choses. On dit par exemple qu'il a croisé la route de Matahari. Bon, elle n'était pas loin, mais on ne sait pas s'il était vraiment en amitié avec elle et pourquoi.
Alors voilà ce qu'il dit encore. Je traîne des pieds, rejetons d'un père illettré devenu cérébral. D'un père illettré devenu cérébral. On m'appelle France à l'institution Sainte-Marie. Ce nom d'emprunt n'est qu'un sobriquet pour moi. Et il a eu d'autres noms. Il a eu de pseudos, hein, Anatole France.
Il n'arrêtait pas.
C'est fou, il en a eu combien
Il a dû en avoir une dizaine. C'est-à-dire que lorsqu'il a voulu faire un livre sur les aérostiers, les ballons de Nadar, qu'on a vu aux Jeux Olympiques de 2024, comme c'était quelque chose de très spécialisé, il s'est fait appeler, je crois, La Porte.
Voilà.
Et donc, chaque fois que c'est pas dans la mentalité de l'époque, il change de pseudonyme. Et il a même fait des faux. il a fait des faux vers d'un grand poète français dont le nom m'échappe. Et il attendait qu'on dise c'est un faux. Mais non. c'était un joueur.
Et alors, bon, il est élevé sur le quai Malaquais, hein, c'est là où il est élevé. Mon école buissonnière, c'est le Louvre. Je crains la folie des adultes et leurs crimes. Je me prépare au pire. Donc, pas du tout sceptique sur... Il est assez sceptique, si, justement, sur la condition humaine.
Il était peintre, hein, aussi.
Il était peintre.
Oui, et il n'a jamais voulu devenir peintre.
Voilà aussi ce qu'il dit, ça c'est marrant pour vous situer le père. Un mois après mon anniversaire, une météorite tomba sur la commune d'Orgueil. Le bolide pesait 14 kg. Donc c'est tout aussi ce qui est bien dans votre livre, Henriette Chardac, c'est que c'est toute une partie d'un siècle. C'est toute une génération que vous... La génération de Proust, la génération de la comédie, les actrices, les comédiennes...
Le Nadar gaz qui passe à l'électricité, voilà. Nadar chez qui va se faire photographier. Et ce que je trouve surprenant chez Anatole France, c'est qu'il est d'abord un grand scientifique et qu'il va devenir l'ami d'Einstein, par exemple. Ils vont pouvoir parler de choses qui nous dépassent même aujourd'hui.
Oui, donc on est à l'orée de la modernité, en quelque sorte.
Ouais. Et on l'a mis à la cave. Mais on ne parle plus d'Anatole France. Je veux vous remercier du fond du cœur, parce que j'attends des coups de fil depuis des mois. Ah, vous avez sorti un livre sur Anatole France ? Non.
Alors aussi, il s'intéresse à tout. Et puis, par exemple, mon ardeur adolescente m'entraînait dans le passé de Palmyre. Je fis lire mon texte au libraire, il fit la moue, il voulait me détourner des lettres dont on ne vit pas, à moins d'être un génie reconnu. Préfère vendre des livres plutôt que d'en écrire, tu n'es pas fait pour livrer une bataille littéraire. Et cette bataille littéraire, il va la mener avec un premier livre sur Alfred de Vigny. Alfred de Vigny, dit-il, j'ai longuement examiné son portrait signé Nadar avant d'écrire. Sa famille avait été balayée par la Révolution, Vigny blessé au genou. Quand voilà, il raconte le portrait. Donc c'est une émotion visuelle d'abord pour Alfred.
Toujours. Et puis il cherche sa place. Il sait que son père vient de la campagne, que la devanture de la librairie de France c'est un paravent au passé paysan, que lui. Il s'en bourgeoise, il ne s'en cache pas. Il est content de porter un beau manteau qui tient chaud et de refaire une villa à son goût et d'acheter une maison à la campagne avec ses droits d'auteur monumentaux. Parce que à sa mort, mais il y avait foule comme pour Victor Hugo.
À sa mort, en plus, il avait eu le prix Nobel deux ou trois ans avant.
Avant, oui. Donc, il cherche sa place et finalement, il sait qu'il est à l'aise avec tout le monde, sauf avec les hypocrites. Alors, on peut être paysan, on peut être ministre ou président de la République, il va avoir le même comportement éclairé, éclairant, et parfois il est déçu par les politiciens.
Alors voilà ce qu'il est.
Sauf par Jaurès, bien entendu.
Alors Jaurès, un ami à lui, et puis vous racontez la mort de Jaurès aussi. Mmh. C'est ça, c'est que, en fait, votre livre, c'est vraiment toute une génération de post-moderne, pré-modernité, enfin c'est on voit naître le 20e siècle, ce qui va devenir le 20e siècle.
C'est-à-dire qu'en suivant un personnage et les personnages qu'il connaît, on est connecté avec un bon siècle d'histoire de France.
Oui, tout à fait.
Et on comprend ce qui se passe. Par exemple, l'affaire Dreyfus, il va connaître. Comment dire, dans sa chair, ce qu'est une injustice, il n'est pas juif, mais il se sent juif. Et quand on imagine qu'à cette époque-là, il y avait des députés qui se présentaient aux élections avec leur nom, suivi de antisémites, et donc la création d'un État palestinien pour les juifs qui n'en pouvaient plus de cette affaire Dreyfus, c'était Théodore Herzl, c'était quelque chose de logique pour lui. Et ça, on lui en a voulu. On lui en a voulu parce que Maurras a écrit plus ou moins ce que je vais vous dire. Même si Dreyfus est innocent, il ne faut pas le dire, il faut le taire. Parce que d'abord l'armée, l'église. Et lui, humaniste comme il est, il ne veut appartenir à aucun parti ni aucune coterie. Il reste libre.
Alors d'ailleurs, pour revenir à Vigny, voilà ce que disait Anatole France. Une phrase de Vigny me hanta. L'existence du soldat est, après la peine de mort, la trace la plus douloureuse de barbarie qui subsiste parmi les hommes. Donc voilà. Et toujours au sujet de Vigny, puisque c'est son premier livre, je me suis révélée à travers Vigny, impénétrable dans sa solitude. Il m'a fait oublier mon isolement. Il n'aimait pas la foule et nous nous sommes coudoyés. Telles deux âmes énigmatiques, nous nous retrouvions entre le blanc du papier et le noir de la typographie.
Ça, c'est de moi, hein, c'est pas lui qui l'a écrit.
C'est très voilà. Il ne faut pas prendre son calme pour de l'insensibilité.
Ça, c'est de lui.
Voilà, ouais. Donc c'est bien. Ouais. On peut dire c'est un concerto à quatre mains.
Oui.
Hein, vous qui faites du piano, Henriette Chardac.
J'ai résumé son livre et ce qui m'a touchée, c'est l'idée fixe, la boussole, la foule n'a pas toujours raison.
Oui, exactement. Et aussi, alors on voit le naître, c'est un homme, ça va être un homme de lettres, institutionnel, reconnu, aujourd'hui qui passerait toujours dans la télévision, qui serait peut-être au jury Goncourt.
Oui, enfin,
ouais, ça serait vraiment quelqu'un de très important. Et la joie qu'il a quand il a son premier livre, une joie éphémère me traversa quand je l'eus achevé d'imprimer le 20 mai 1868 par Jules Bonaventure, éditeur du Quai Malaquais, 152 pages. Ça tient à rien, un livre.
Ben oui.
Une petite... Quand on les retrouve bien longtemps après, justement chez les bouquinistes ou chez Gibert.
Voilà, la boucle est bouclée, oui. Ouais,
cette petite phrase achevée d'imprimer. Et vous, on sent que ça vous émeut encore.
Ah oui, parce que, par exemple, il m'a fait connaître Paul Hervieux, également académicien. Alors, je conseille à tout le monde de courir après ce livre qui s'appelle « L'inconnu ». Sans Anatole France, je n'aurais jamais lu « L'inconnu ». Et ça se passe dans le milieu psychiatrique, car Anatole France était très intéressé par la folie créatrice, mais et la démence. Et il faisait la distinction entre la folie créatrice, les poètes sont un peu fous, mais la démence, c'est autre chose.
Ouais, il s'intéresse à tout. Et il faut dire qu'avant d'écrire, il a rédigé des articles d'archéologie pour le Grand Dictionnaire et pour l'Amateur d'autographes créé par Charavet. C'est vraiment... Mais on peut dire qu'il a eu le terreau de la bibliophilie, de ce qu'il a formé en autodidacte. Après, il a écrit et après, il a été... Alors, pour les grandes dates, il a été quand même secrétaire au Sénat. C'est ça, Anatole France, Henriette Chardac?
Non. Il a été grouillot à la bibliothèque du Sénat.
Oui.
Il était... On lui en demandait beaucoup et on le traitait comme un moins que rien. C'est le comte de Lille qu'il a un petit peu parrainé. Et il a été très déçu, sauf qu'il a rencontré Schœlcher et Berthelot, des gens passionnants. Dans leur bureau, il se passait des choses. Mais lui, on lui demandait de trier par thème les archives. Et il jouait un petit peu à l'idiot, surtout en géographie. Il demandait dans quelle case il fallait... caser certaines choses administratives. C'est un empêcheur de tourner en rond, vraiment.
Ouais, donc il était un peu...
Un factotum.
Oui.
Oui. Et
à la bibliothèque du Sénat, hein, voilà. On est d'accord.
Et il a été dirigé par un stagiaire.
Et en 1889, il rencontre Proust. Alors, il y a des photos, il y a une fameuse photo, on voit Proust avec une raquette.
Oui.
Alors, il faut que vous nous racontiez ça, la rencontre entre Proust et Anatole France. Enfin, vous le racontez dans votre livre, mais bon.
Avant Proust, il faut savoir que Anatole France est tombé amoureux d'une amoureuse qui collectionnait les amants. Bien. Et c'est dans son salon qu'elle invitait parfois des ennemis, et le tout venant de demain. Voilà. Et
donc c'était une comédienne.
Non. Elle était mariée à un politicien de Bordeaux.
Oui.
Et c'est ce qu'on a reproché à Anatole France. C'est d'être l'amant d'une juive.
Oui, ça, c'est Paul Valéry qui lui a...
Oui.
Et Paul Valéry lui en a...
Elle était mariée à un monsieur qui s'appelait Armand de Caillavet.
Voilà. Mais c'est vrai que Paul Valéry lui en a tellement voulu que quand il lui a succédé au fauteuil, à son fauteuil de l'Académie française, donc Anatole France était mort, Paul Valéry prend la suite, il fait un discours en hommage, soi-disant, à Anatole France, il ne cite pas une seule fois son nom. Donc il y avait... Mais Paul Valéry lui en voulait en raison d'un différend, je crois, au sujet de Mallarmé.
Enfin, on lui en voulait toujours pour quelque chose.
Mais comment ça se fait?
On lui en voulait d'être ami avec cette fameuse Léontine Armand de Caillavé.
Oui.
On lui en voulait de défendre Dreyfus. On lui en voulait d'aimer ceux qui, comme dans la revue Blanche, les Nathanson faisaient faire des articles pour démontrer l'innocence de Dreyfus. On lui en voulait d'être l'ami de Zola et de Jaurès, et de ne pas être un bon franchouillard, et de dire du mal des pères de Stanislas. Parce qu'à part un prof...
Cela, il est très moderne.
Ah oui, il n'a pas aimé. Il n'a pas du tout aimé. Et il a rêvé la laïcité, la séparation des églises et de l'État. Parce qu'on dit de l'église et de l'État. Non, parce qu'il y a plusieurs églises. Et il y a pensé bien avant 1904. Et oui. Puis, il avait l'air d'un dandy. On lui en voulait d'être snob, bien habillé, d'avoir des amis américains, d'aller en Russie, en Grèce, en Égypte, de voyager, de défendre Rabelais.
Il adorait Rabelais. Hein.
Oui, c'était son père spirituel, je pense.
Hein, il adorait Rabelais, il disait même manger du Rabelais tous les jours.
Oui.
Hein, c'était sa formule. Bon, on va manger un petit peu de musique, tiens. Ça va nous... Je ne sais pas ce qui nous attend.
Eh bien, il paraît qu'il n'aimait pas la musique.
Non.
Sauf Eric Satie, alors, puisque c'est ça, Gymnopédie numéro 1. Thank you. C'est Anne Kefelec au piano qui joue Eric Satie.
Et oui, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui en présence d'Henriette Chardac pour Anatole France, une résurrection qui vient de paraître aux éditions Le Passeur. Henriette Chardac, vous qui êtes aussi une pianiste, vous aimez la musique.
Tout à fait.
Et Anatole France, lui, c'était pas son cas, sauf pour Eric, pour Satie.
Et pour Thaïs.
Oui.
Pourquoi il aimait bien Satie, à mon avis, hein, c'est que sur les partitions de Satie, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas piano, fortissimo, accéléré, ralentissé, non. Il écrivait sortez, entrez en vous-même. C'est-à-dire que c'était de la poésie et c'est de la musique de l'intime. Je pense que Anatole France n'aimait pas la grosse fanfare, enfin les grands orchestres. Thaïs lui a fait verser des larmes puisque c'était un opéra adapté d'un de ses livres qui était devenu une pièce de théâtre, etc. Et le violon. Il avait trouvé ça très beau, mais trop de musique l'interrompait.
Donc il écrivait en silence, j'imagine, de toute façon à l'époque.
Il n'aimait pas la radio non plus, les débuts de la radio, c'était les courses, il y avait de la réclame déjà, enfin, c'est très amusant, il est très rétrograde de ce côté-là, mais il a peut-être pas tort.
C'est un homme de son époque, c'est un homme de son époque. Alors le succès arrive avec, je crois, Le Crime de Sylvestre Bonnard. Hein.
En feuilleton d'abord.
En feuilleton. Oui. Alors il écrit, ou vous lui faites dire, je pense que vous lui faites dire. Je commençais à m'amuser avec les journalistes et quand un chroniqueur me demanda pourquoi je prenais des pseudonymes, justement, j'ai répondu, j'ai signé Jérôme pour me défendre et la porte pour prendre l'air. Il jouait beaucoup. Il aime bien les personnages de femmes libres.
Ouais, le Lys rouge. Il raconte un peu sa vie avec Léontine. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec Le Crime de Sylvestre Bonnard, c'est que ça tourne autour d'un livre, un livre rare que Sylvestre Bonnard veut à tout prix récupérer, quitte à vendre des biens pour le payer. Or, il s'agit d'un pauvre petit bonhomme qu'il traite avec mépris, qui prend ça très au sérieux et qui va trouver le livre. Et entre-temps, il a épousé une comtesse russe et il va monter les enchères, il va mourir. Et la comtesse fait livrer dans une sorte de bûche de papier de Noël le livre tant recherché. Et donc, il s'intéressait beaucoup aux faits divers, Anatole France. Vu que Doudé, c'est la femme qui a été convaincue d'être coupable de meurtre sur un enfant, il aimait les faits divers et il se pose la question extraordinaire. Est-ce qu'on peut être criminel, pousser quelqu'un à la mort sans armes, mais il a poussé...
Par procuration.
Voilà. Il a poussé un homme vers la misère et il s'en est pas remis, même s'il a épousé une riche héritière. Voilà. Et c'est très intéressant, le fait divers est dans tous ses livres, en fait.
La manipulation
et... Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est coupable ou pas, les faux témoignages. Enfin, il est très intrigué par le fait qu'on dénonce des gens. J'en reviens à 14-18. Franchement, il y avait peut-être 3 000 condamnés à mort, voire plus. Et il a dû en sauver 1 000.
Mais comment il faisait pour les sauver?
Mais il écrivait au ministre. Et il faut lire ses lettres. C'est-à-dire que... Ça remontait jusqu'au moment où il allait écrire dans un article voilà, nos généraux seraient-ils des assassins, ben, et non. Alors donc on en graciait certains, dont un fameux Breton.
Donc c'est l'anti-Brasillac, hein.
Voilà, et donc il reçoit des lettres de remerciement, mais des années et des années après, et tout cela se fait discrètement. Il est très discret sur ses actions, mais il y va franco, quoi. Je veux dire, il y va pas avec la petite cuillère et la diplomatie, et il joue du fait qu'il est académicien, puis vers la fin prix Nobel pour trouver du boulot à des gens, rapprocher des personnes qui ne se sont pas vues. C'est une entremetteuse, entre guillemets. Enfin, c'est quelqu'un...
C'est une générosité.
Ouais, d'attachant. Et qui a ses défauts dans sa vie privée, je dois le dire, il y a quand même... Léontine a fait une tentative de suicide et une Américaine s'est vraiment suicidée pour ses beaux yeux.
Voilà. Bah, vous le chambrez souvent sous sa vie intime. Hein,
oui.
Et vous lui faites pas de cadeaux, vous le rabrouez. Et c'est ainsi, ma chère, je vous donne un conseil. Il est bon que le cœur soit naïf et que l'esprit ne le soit pas. C'est ce que j'ai dit à Renan. Voilà ce qui est... Il y a toujours une petite pointe d'humour. Hein. Oui. Il y a toujours... À l'époque, je n'étais qu'un dilettante enflammé, un perturbateur poli, un intellectuel pédagogue, un désinvolte entraîné dans son sillage. Donc, il est lucide sur lui-même, lucide sur les autres. Il est assez fasciné, c'est ce que tout à l'heure j'évoquais un petit peu. Par exemple, dans la conversation qu'il a avec Tara, donc... sorte d'interview, d'entretien, la conversation un jour de temps en temps porte sur des femmes libres. Par exemple, Juliette Lambert, cette polémiste féminine, n'aimait pas les Aimées de Proudhon à cause de ses propos misogynes. Elle signait alors De la Messine, nom de son premier mari. Donc c'est vrai qu'on apprend, vous ressuscitez par la même Henriette Chardac plein de personnages qui sont...
Oui. Mais lui, c'est comme un filet de pêche. Il attrape les gros poissons et les crevettes.
C'est un gros paquebot, hein, j'allais dire, même.
Moi, il m'a fait connaître Séverine de l'intérieur. C'était une journaliste, la seule journaliste qui pensait, dans le deuxième procès en révision de Dreyfus, qu'il y avait les preuves que tout cela avait été un coup monté. C'est un coup monté, puisque Schwarzkoppen savait qui était le coupable. Et il va dire qu'après le procès, elle est tombée malade et ses cheveux rouges sont devenus blancs. Mmh. Il me fait connaître des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par des portraits
très flash.
Et il m'a fait connaître, je dirais, la richesse d'un siècle oublié.
Exactement. Alors, on parle de Séverine. En 1897, elle a fondé avec Marguerite Durand La Fronde, le premier journal féministe. Voyez, je ne suis pas l'horrible misogyne que vous imaginez. Séverine s'est battue pour le droit à l'avortement. Voilà. C'est un homme d'engagement qui a payé fort le prix de sa liberté et de ses engagements.
Et pour elle, pour Séverine,
oui.
Il a demandé qu'elle soit la première femme admise à l'Académie française. Quel est le prix Nobel de la paix ? Par trois fois, on lui a dit non. Mais ses écrits restent et son engagement... Et le miroir de nos lâchetés, voilà.
Et puis alors, il a dénoncé le génocide arménien, ça c'est quand même...
Grec. Petit-fils était d'origine grecque.
Oui.
Et il a voyagé en Grèce, c'était les seuls moments de poésie dans sa vie, mais il n'aimait pas les yachts. Et il partait souvent avec Léontine dans le yacht de son mari.
Ouais.
Mais il a visité l'Italie et la Méditerranée. Et franchement, c'est là où il se désengageait, on va dire. Il vivait sa vie de voyageur.
De voyageur, d'homme. Alors, sur la musique, voilà ce que vous lui faites dire. J'aurais tant aimé jouer d'un instrument pour désirer la musique. Ma seule qualité était d'entendre les fausses notes. Et qu'est-ce qu'il y en avait des fausses notes ? Aussi sur son manque d'éloquence. Alors, il manque pas d'humour, parce qu'on me croyait éloquent, je le suis devenu par l'imitation. La première fois que j'ai vraiment parlé en public, au lieu de dire « la séance est ouverte », je déclarais « l'ouverte séance ». Si j'avais été éloquent, je n'aurais jamais écrit. Et c'est vrai que l'écriture, c'est le silence, ça lui permet de... Cet homme qui est tout feu, tout flamme, finalement, ça lui permet de construire sa pensée.
Tout à fait, et de partager, parce que il répond, il avait des piles de courriers, même si ça le fatiguait, ça l'énervait parfois, mais on lui écrivait d'Australie, des États-Unis, de partout, et il répondait, parce qu'il avait ce sentiment de semer des graines dans le cerveau des gens pour les élever vers la culture, et puis vers l'universalisme d'une terre ronde et riche de différences.
Je n'ai pas gardé ma Légion d'honneur. Mes lecteurs m'adoraient. Des auteurs m'ont traité d'exécrable histrion de l'esprit, d'ignominie française, d'âne officiel, et même d'étron parce que j'ai défendu des innocents. Finalement, il a défendu, à force de défendre son prochain, comme on dit, il a pris pas mal de coups, hein, y compris pour sa postérité d'ailleurs. Mais alors, il y a aussi, je te parlais tout à l'heure, Henriette Chardac, d'autres personnages que vous évoquez. Pour ça, c'est une galerie de portraits. Par exemple, Vivant Denon.
Ah oui.
C'est quand même... Non, comme il ne savait pas... Denon s'était retiré avec ses reliques, un peu de la cendre d'Héloïse, une parcelle de ce beau corps d'Inès de Castro, des brins de la moustache d'Henri IV, des os de Molière et de La Fontaine, une dent de Voltaire, une mèche de cheveux de l'héroïque décès, une goutte de sang de Napoléon recueillie. Alors, c'est vrai que Vivant Denon, voilà, en une phrase...
Eh bien, il a habité là où il habitait.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est fou. Et c'est une sorte de synchronicité, ce qu'on appelle. Mais il a l'art de voir que le passé le rattache au présent. Il aime le passé comme les racines d'un arbre. C'est-à-dire qu'un arbre sans racines meurt. Le tronc, c'est la sève qui monte et qui descend et qui donne des feuilles, on va dire des livres. Et il ne se voit pas tout seul ex nihilo. Il se voit relié à tous ces êtres qui ont vécu et laissé des traces.
Et Denon avait un point commun avec lui, c'est les actrices.
Et oui.
Vivant Denon, vous écrivez, avait 7 ans quand une bohémienne lui prédit qu'il serait aimé des femmes. Et invité à la cour, il fréquenta les coulisses de la Comédie française et les actrices raffolées de lui. Proust, alors Proust aussi, la petite anecdote. Proust, Marcel Naquet, c'est Anatole qui parle, Marcel Naquet si débile que ses parents craignaient qu'il ne fût point viable. Vous rendez
c'est
compte
vrai. Oui, ben on apprend plein de choses, c'est un journaliste. Et oui, c'est ça.
Et il parle aussi de Clémenceau, qui aurait été aussi journaliste. C'est
oui,
ça qu'on
il a été journaliste, et puis ils se sont un peu frités, comme on dirait aujourd'hui.
Mais alors, son grand combat, c'est quand même, et amitié, c'est Zola. Hein. Zola, alors le 5 octobre, je ne sais plus quelle date, au cimetière de, il a prononcé son éloge funèbre. Donc c'est quand même un moment dans la, c'est, voilà, le 5 octobre 1902. Donc ça c'est un moment très important où Anatole France prononce son discours et il dit « Envions-le, sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. »
Et il ajoute auprès de ses amis qu'il est persuadé que Zola a été assassiné car il connaissait bien la maison, je crois, rue de Bruxelles aujourd'hui, et la cheminée avait été ramonée. C'était impossible qu'il y ait un feu de cheminée qui asphyxie Zola et ses chiens. Sa femme a été sauvée. Et ça a été prouvé des années plus tard. Donc Zola, il l'a attaqué quand il était très jeune, quand il faisait partie des Parnassiens.
Oui. Ouais.
Et il disait que le monde paysan, à travers lui, c'était que monstruosité, parce que lui, il avait presque une vision idyllique de la campagne. Mais toujours, il a fait marche arrière pour dire « oui, on a une vision différente ». Et quand il s'est engagé à suivre des mineurs, à faire vivre le petit peuple, il a adoré Zola et ils sont devenus inséparables. Enfin, c'était vraiment deux amis.
Deux amis et il l'a défendu jusqu'au bout, hein, si on peut dire.
Il a défendu deux innocents, Zola et Dreyfus.
Et Dreyfus, il a vraiment défendu jusqu'au bout. On va faire une petite pause musicale et après nous poursuivons notre conversation.
Il est 16.
Alors là, je pense que il aurait peut-être aimé, évidemment, elle n'était pas née, mais Henriette Chardac, vous l'aimez beaucoup.
Pour aller jusqu'à
non, c'est pas là.
Non.
Anatole France nous joue des
tours. Non, c'est pas du tout ça, je comprends pas.
Oui, c'est Anatole France qui vous dit, il voudrait écouter Thaïs, mais sinon rien, quoi.
Non, c'est pas Thaïs.
Je sais.
Bon, on va
continuer. Alors là, je comprends pas. On va essayer un peu plus.
Five story fire as you came.
Il aimait les revues nues.
c'était bien entendu Amy Winehouse.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, émission Bibliomanie avec Henriette Chardac qui vous dit tout d'Anatole France et de son livre Anatole France, une résurrection. Ça vient de paraître aux éditions Le Passeur. Henriette Chardac, c'est vrai que Anatole France, c'est un monument, c'est un univers aussi. C'est un siècle, une partie d'un siècle, c'est une génération. Et on parlait tout à l'heure des femmes, et à un moment donné, il parle de Myriam Harry. Maintenant, je vais vous parler de Myriam Harry, ses souvenirs romancés chez Fayard sous le titre « La petite fille de Jérusalem » parurent avant la guerre. Et c'est... Voilà, il évoque cette, à un moment donné, dans leur conversation avec Tara, donc, ils évoquent cette Myriam qui a été, je crois, la première femme lauréate du prix Femina.
Exact.
Il aime bien les femmes un peu qui sortent du rang, qui sont des aventurières.
Il aime les femmes libres et Léontine écrivait très très bien. Sa maîtresse écrivait, il y a un livre avec leurs lettres. Il avait dit que jamais ça ne devait être édité, mais ça l'a été. Elle écrivait très bien. Il aimait les femmes journalistes, aventurières. Il aimait les femmes de demain.
Et je voulais aussi vous dire, parce qu'on a tout à l'heure, on a parlé des dieux ont soif. La phrase, en fait, c'est le dieu ont soif, c'est inspiré de la phrase de Camille Desmoulins à la veille de sa décapitation. Voilà, on aurait dit les dieux ont soif. Le chef-d'œuvre donc d'Anatole France. Mais alors aussi, on apprend plein de choses. Par exemple, le canard enchaîné, ceux qui ont il y a collaboré.
Ah oui, oui, oui.
Ça, c'est
oui.
Incroyable.
Ah oui, il a été un des premiers. Il a travaillé à l'Humanité aussi avec Jaurès. C'est quelqu'un qui touche à tout et qui va à fond et qui signe des centaines, des milliers d'articles, toujours engagé. Et il a soutenu, encore une fois, ses amis peintres ou sculpteurs comme Steinlein, qui a peint et dessiné des soldats pendant la guerre de 14-18. C'est-à-dire, il n'est pas que témoin.
Il est acteur.
Il est acteur parce qu'il reçoit les événements en plein cœur. Il ne fait pas semblant. Et encore une fois, je suis très triste de voir qu'on l'a oublié et qu'il a fallu que je passe des années à le relire pour faire revivre aussi sa vie. Je ne suis pas la seule, mais on n'est pas très nombreux.
Et il y a de très beaux passages, je trouve, sur la mort de Jaurès.
Ah oui.
Quasiment, j'allais dire, les lecteurs découvriront ça sous votre plume, dans votre livre, on dirait presque heure par heure. Enfin, on est en direct avec la mort de Jaurès à un moment donné.
Oui, parce qu'il reçoit un télégramme, il n'est pas à Paris. Et Jaurès et lui se sont toujours battus ensemble et il perd un compagnon de route. Et c'est un journaliste américain qui lui, à Tours, où il se trouve dans un restaurant, qui fait envoyer un télégramme comme quoi Jaurès est mort, assassiné.
La veille de la guerre.
C'est le 31 juillet, et la guerre commence le 4 août, et on peut dire que sous le regard d'Anatole France et de Jaurès, on aurait pu éviter cette guerre, si. Mais on ne l'a pas fait. Et donc, ça va être monstrueux, puisque une forme d'impréparation des ministres de la guerre qui dessinent des canons en sachant que les vrais ne sont pas là. Enfin, c'est. Il y a un certain cynisme chez France de décrire le pourquoi de la catastrophe.
À un moment donné, d'ailleurs, vous avez cette. Vous me parlez de. Qui serait une sorte d'anarchiste en redingote. J'aime bien la formule.
C'est-à-dire, c'est ça. Il s'est coulé dans le monde des puissants pour aider les fragiles. Un exemple, vers la fin de la guerre, il y a des fabricants de casquettes qui viennent le voir en lui disant, voilà, vous habitez maintenant Saint-Cyr-sur-Loire, vous avez connu la guerre, les Américains qui ont envahi votre maison pour nous sauver, etc. Mais nous, on n'a plus de boulot. Et il dit avec humour, oui, mais maintenant, on se bat avec des casques à pointe, les amis. Je vais discuter avec le ministre de la guerre pour que vous puissiez fabriquer des casquettes pour les soldats blessés au retour de la guerre, pour que vous ne perdiez pas dans votre emploi. Et donc, dans la presse, au lieu de dire France dit carcasse, mais c'est un fumier, il a trouvé du travail à des gens à faire des casquettes, mais qu'est-ce que c'est? Enfin,
Souvent l'habit, le costume, finalement on le prend, mais c'est vrai qu'il y a un côté dandy. Par exemple, il évoque un autre dandy, Barbet d'Aurevilly.
Ah oui.
Personnage aussi oublié. Ouais. Barbet d'Aurevilly, vêtu de rouge, dans sa pauvre chambre fanée et nue, se dressait superbe et magnifique. Il fallait l'entendre quand il disait, mensonge touchant, « J'ai envoyé mes meubles et mes tapisseries à la campagne. »
Ça veut dire qu'elle les avait vendus, voilà, à un brocanteur, oui. Ah oui, c'est un reflet des autres, ça, y a pas de problème.
Il était un peu comme vous, il riait à ses propres blagues sans pouvoir épater la galerie. C'est pour lui seul qu'il portait des cravates de dentelle et des manchettes à la mousquetaire. Il n'éprouvait pas comme Baudelaire l'horrible... j'ai une page qui me manque. Mais voilà, il y a des portraits vraiment de Barbet d'Aurevilly qui sont... Pareil, on voit un tableau, on voit un personnage qui passe et qui disparaît forcément. Mais c'est vrai qu'Anatole France, par exemple, Jean Cocteau, ça n'allait pas du tout. Cocteau l'a traité d'immondice quand même.
Détron,
voilà. Parce que ils n'ont pas tardé, en fait, ce fameux. Donc, quand il meurt.
Cocteau a été quand même, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un collaborateur. Il est. Autant j'aime ses films et ses œuvres, autant il est raccord dans son antisémitisme et son racisme. Et sa haine de France, quoi. C'est très étrange.
Et non, mais il faut dire aussi que les surréalistes, ils n'ont pas tardé, c'est ce que je veux dire pour les auditeurs. Il meurt donc le 16 octobre, c'est ça ? 12 octobre 24. Et le 18, il lance un pamphlet, un cadavre, contre lui. C'est comme une cabale post-mortem.
Ah, mais il faut applaudir. Si vous voulez gifler un cadavre, France est mort, allez-y. Enfin, on respire, quoi.
Alors, il y a le rapport aussi d'Anatole France, je veux dire, aussi avec la mythologie, les contes. Il publie en 1909 Les Sept Femmes de Barbe.
Ça, c'est génial.
Ça, c'est
un cours de déontologie de l'information. Tout le monde connaît Barbe Bleue et les femmes de Barbe Bleue. Et Anatole France, basé sur quelques écrits réels, se dit, mais si Barbe Bleue a existé, si c'est bien lui dont on parle... c'est peut-être la malchance, mais ces sept épouses sont mortes de leur faute. Et il va écrire un roman où effectivement Barbe Bleue est victime de ses épouses. C'est drôle, et en même temps, en déontologie, j'ai eu la chance, et je dédie en partie ce livre à Jacques Léauté, qui fut mon prof en criminologie. Le premier cours qu'il nous donna à Strasbourg, c'était les faux témoignages de bonne foi. Donc, comment on mène une enquête? Comment on peut démasquer le vrai criminel? Quels sont les enjeux? Et c'est basé entre l'intuition et la logique. Et il a cette déontologie de l'information dans les sept femmes de Barbe Bleue. C'est un délire. C'est magnifique. Il prend le contre-pied et il y arrive merveilleusement bien.
Un peu comme Ruth Rendell qui part du... Avant le crime, enfin, elle montre comment un crime va arriver. Finalement.
Oui. Hein.
Alors, comment vous avez travaillé, Henriette Chardac? Vous avez été en bibliothèque, vous avez consulté les manuscrits. Là, il y a une exposition, d'ailleurs, en ce moment.
Oui, à la bibliothèque de la ville de Paris, rue Pavée, de Bonnes Intentions.
Oui, de septembre à décembre 2024, donc la bibliothèque historique de la ville de Paris, exposition rencontre, donc ça, c'est autour d'Anatole France. Est-ce que ça a été difficile
Oui, parce que ça n'intéresse personne. Alors, par exemple, je regardais les ventes. Alors, entre bibliophiles, donc j'ai photographié des inédits. Je suis allée bien sûr à Saint-Cyr-sur-Loire pour m'imprégner.
Alors, les trois lieux de France, je crois, il y a les Quai Malaquais, après il y a la Villa Saïd.
Oui.
Et après,
Il y a Le Monde.
Voilà.
Et les théâtres et les bibliothèques. Et donc. Moi, quand je relisais les livres ou les articles, j'allais trouver, par exemple, les lettres que qu'il avait pu écrire à Clémenceau ou quand est-ce qu'ils s'étaient rencontrés. Donc je faisais une enquête dans les journaux et tout d'un coup quelque chose m'accrochait comme Séverine. Alors par exemple, lui me donne des pistes, mais il faut que j'aille vérifier. Et parfois il se trompe, mais la plupart du temps, il m'a mis sur une autoroute, quoi.
Voilà, à chaque fois. Et puis alors, c'est vrai que, moi, je dis pour les auditeurs, voilà ce qu'écrivait. Il y a plein de conseils d'Anatole France pour l'écriture, pour la lecture. Aller chez un libraire, prendre un livre, le feuilleter, cueillir une phrase, la commenter au besoin si on est en compagnie. C'est le monde qui s'ouvre sur un horizon inconnu. Autre phrase, on ne doit pas seulement aimer les livres pour leur contenu. Ce n'est là qu'une partie assez mince de leurs intérêts et de leur attrait. Il y a aussi une jouissance tactile du livre, le prendre, le regarder, mettre les doigts au travers des pages, comme il est souple, le plier. Autre phrase, savoir donner, peu le savent, c'est le secret du bonheur. N'essayez pas de satisfaire votre vanité en enseignant de nombreuses choses. Éveillez la curiosité des gens, il suffit d'ouvrir les esprits. Ne les surchargez pas, mettez juste une étincelle. S'il y a de bonnes choses inflammables, cela attirera le feu.
Et voilà ce qu'il a fait dans les universités populaires. Il a créé ça aussi. C'est-à-dire que le soir, des ouvriers ou des chômeurs allaient prendre des cours du soir. Hein, rue des Écoles, par exemple, ou à Montreuil. Et donc, il était le parrain de
ce mouvement des universités populaires. Ouais. Et vous m'avez dit hors micro, Henriette Chardin, qu'il était beaucoup plus populaire à l'étranger qu'en France.
Exactement.
Paradoxe de son nom.
il a été traduit en anglais, oui. Bien entendu, en espagnol. Mais les Américains ont trouvé que c'était un excellent scénariste et ils ont adapté ses livres au cinéma. En France aussi, mais beaucoup moins. Mais c'était l'honneur de notre pays qu'il n'appartienne à rien qu'à sa conscience, un peu comme Jaurès.
Ouais. Et quand il a eu est-ce que le prix Nobel lui a été fatal quand il était nobelisé, est-ce que ça a contribué un peu à la méconnaissance finalement d'Anatole France?
Non, il était très lucide. Il savait que on l'avait choisi par défaut. Parce qu'il préférait Wells, W-E-2-L-S. Hein.
Ouais.
Il pensait qu'on l'avait choisi parce qu'il passait pour un bourgeois. Mais il a accepté pour redire en 24, attention à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Parce qu'il a suivi Hitler en 22. Il l'a vu venir. C'est quand même extraordinaire. Et il était déjà malade. Il avait la maladie de Dupuytren.
Oui.
Donc, il le dit rarement à ses proches. Et disons que là où il a bien aimé, en Suède, c'est de rencontrer un prix Nobel à qui on n'a pas donné le prix Nobel cette année-là. C'était Albert Einstein.
Ah oui, voilà.
Et leur correspondance est magnifique. Donc, vous voyez, la trame du livre, c'est « Ah bon, il a rencontré Einstein. Est-ce qu'ils se sont écrits ? Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Lui dit... je suis frileux. Oui, mais moi, mon chauffe-eau, enfin, chez moi, il fait pas très chaud. Et si on se revoyait dans l'hôtel de Berlin où vous allez dormir. Et voilà, c'est des choses toutes concrètes. Et il y a une photographie où il y a le jeune Einstein avec les cheveux bouclés comme un mouton. Et en face, sur un fauteuil en rotin, il y a Anatole France. Et ils se dévorent des yeux parce qu'ils ont tant de choses à se dire. Et ces photos-là, elles valent tous les plateaux où on voit le même journaliste qui n'est pas allé mettre ses yeux où il aurait dû et faire un film ou un bouquin ou un article. Donc, c'est un témoin actif. Voilà. Et le prix Nobel, il n'en a en fait rien à faire parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un de meilleur que lui, c'est Wells. Mais il est content. Et on va le fêter à Paris, au Trocadéro. Il en peut plus. Il a envie de retrouver sa campagne. Il aime être à la campagne. Il a une voisine, c'est-à-dire une voiture merveilleuse avec des pneus à flanc blanc. Et ce qu'il aime, c'est rouler dans les forêts, trouver des châteaux, écouter les oiseaux, observer une libellule et s'occuper de son petit-fils qui n'a plus sa maman. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas touché par la célébrité. Voilà, c'est Il s'est transvasé dans son œuvre.
Voilà ce que vous écrivez, Henriette Chardac. Comment vous définissez Anatole France ? Un philosophe social qui a fait de son mieux. Il y a des mots qui existent pour des choses qui n'existent pas. Prenez le bonheur, par exemple, le vrai bonheur ou la vraie chance. Rien de nouveau sous le soleil, si la fonte des glaciers. Voilà ce que vous dites, vous, après. Ancien bègue, il ne bredouilla jamais lorsqu'il s'agissait de défendre des êtres injustement mis à terre. Hypersensible et drôle, il rassemblait à un icard, acceptant de se brûler les ailes pour autrui. Macho repentant, il se battit pour que les femmes trouvent leur place entière. Il fut le prophète de nos futurs. Il espéra que l'humanité ne choisisse pas la voie sans issue, celle du cynisme des uns appuyé sur la faiblesse des autres. Son écriture était un outil pour qui aime apprendre à penser par lui-même. Donc France, la grande leçon d'Anatole France, c'est une leçon d'indépendance, d'autonomie.
Oui, c'est-à-dire que il ne croyait pas à la masse ou à la massification ou à des fleuves de gens qui sont pour ou contre. Il pensait que si des êtres éveillés n'étaient pas d'accord entre eux, mais respectaient le principal, la fraternité par exemple, le partage ou l'échange, ça ferait une terre ronde et sans frontières. Parce que son rêve final, c'est que les pays se surajoutent comme des écailles d'un poisson, mais que la terre soit une et qu'on arrête de se faire la guerre partout, parce que ça ne sert à rien.
Donc il était vraiment pacifiste, on peut dire.
Oui. Ça, on lui en a voulu. Ouais. Parce que même pendant la guerre 14-18, il a écrit je ne sais combien de fois, nous allons gagner, nous devons gagner, car ils utilisent des gaz toxiques, ce sont des criminels. Mais il ne faudra pas abattre l'Allemagne, je dis ça comme ça de mémoire, pour que ces beaux esprits s'en aillent à l'étranger et ne restent que les bas esprits, c'est-à-dire ceux qui voudront une revanche. Et il trouvait que le traité de Versailles écrivait la prochaine guerre. Mmh. Donc on lui en a voulu. Alors il voulait se battre, il a posé sa candidature, mais il était trop âgé. Et on a tout fait pour qu'il n'aille pas sur le front. Mais c'était ça, la dichotomie. C'est-à-dire qu'il voulait gagner, il était pour une guerre rapide, mais pas humilier, entre guillemets, l'adversaire pour qu'il veuille se venger.
Se battre la loyale.
Exactement.
Donc nul n'est prophète en son pays. Et France, malgré le nom qu'il portait, ne fut pas du tout... écouté de son vivant et même après. Quels seraient les héritiers d'Anatole France aujourd'hui?
Bon, il y a eu Mendès France, encore un France.
On sera France décidément.
Peut-être l'avocat qui a été contre la peine de mort de
Badinter.
Et puis, je dirais en partie Arnaud Montebourg, qui cherche plus à unir les industriels et les ouvriers qu'à faire des cases pour les uns et pour les autres.
Je parlais aussi sur le plan de l'écriture.
Ah, oui. Sur le plan de l'écriture, Kundera. Oui, parce que Kundera, j'ai lu...
Et il y a aussi l'ironie chez Kundera.
Voilà, la valse des regrets ou quelque chose comme ça.
Ou des adieux.
Il y a le mot regret, ça se passe dans une station balnéaire. Il y a la description des lieux, des visages... Et l'ironie qui nous prend aux tripes parce qu'on sent que ça va mal se finir.
On pense à la plaisanterie, Kundera, on pense à des scènes très fortes aussi. Mm-hmm. Il faut dire qu'Anatole France, le peu que j'en ai lu, on se souvient de son écriture. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'il mérite vraiment d'être lu, relu et redécouvert par les nouvelles générations.
Il y a 150 collèges et lycées qui portent son nom. Mm. Et il serait bon que les professeurs d'histoire géo et de français disent à quel point ça, c'est une fierté de s'appeler lycée Anatole France, par exemple.
Quels sont vos projets maintenant, Henriette Chardac ? Alors, on rêve pour vous qu'il y ait un film autour de votre livre, peut-être une adaptation théâtrale, pourquoi pas ?
J'aimerais bien avec Lucchini, moi. Je lui en ai parlé, j'attends une réponse, on ne sait pas. Donc, je travaille sur Ida Pfeiffer, qui est la première femme à avoir fait deux tours du monde, alors qu'elle est née au XVIIIe siècle. Je termine une pièce qui s'appelle Les cafards dorés. C'est ceux qui cafardent ils sont payés très cher pour pousser les gens vers la sortie. Et puis, je termine un roman qui s'appelle « À contre-pied ». C'est l'histoire d'une traductrice de romans à l'eau de rose, des Feel Good, qui se sent pas bien du tout, qui en peut plus de lire des romances qu'elle ne vit pas. Elle va en vivre une. Elle va écrire son premier roman à l'eau de rose. Et pour finir, elle va écrire sa vie plutôt que des romans.
Bon, et on peut vous retrouver le 5 décembre, d'après ce que j'ai compris. Il faut le dire pour nos auditeurs qui puissent...
Voilà, le 5 décembre, 9 rue Gagneron, vers 19h, et des petites poussières. Il y aura un acteur, Bernard Métro, qui lira des textes d'Anatole France, deux chanteuses, une française et une grecque, et puis ceux qui voudront acheter le livre seront les bienvenus pour amener plus de 800 pages, mais ça vaut la peine. Je pense.
Bah écoutez, plus de 800 pages, vous avez d'ailleurs une plongée. Il y a Anatole France, mais il y a toute une... plein de personnages. C'est une comédie humaine, là. Hein. On est dans la comédie humaine qui... C'est un tournant de l'aventure de l'humanisme, je trouve, ce livre, Henriette Chardac.
Je pense que quand on l'a lu, on regarde les informations d'une autre façon. C'est-à-dire... Moi, je sais qu'il a déteint sur moi, Anatole France, c'est-à-dire d'être sceptique sur ce qu'on me dit avant que ça soit vérifié.
Oui, mais méfiez-vous, on va vous traiter de complotiste.
Non, ben...
Parce que c'est le grand mot quand on a maintenant un peu d'esprit critique, on est tout de suite...
Mais la Terre, je vous assure que la Terre n'est pas plate, d'ailleurs.
Oui. Merci en tous les cas à vous, Henriette Chardac, pour Anatole France, une résurrection aux éditions Le Passeur. Et puis, les auditeurs qui vous écoutent peuvent aussi lire, découvrir, parce que vous avez une belle production. Hein. Vous avez, on s'est vu récemment autour donc,
de Trotula. Oui, j'ai écrit
puis,
sur...
Et puis, Élisée Reclus.
Sur Élisée Reclus, qui était lui
merveilleux
un anarchiste.
Aussi, vraiment...
Oublié.
Bah, vous aimez les oubliés, mais les oubliés ne vous oublient pas. Voyez-vous. Et les lecteurs non plus. Hein, les lecteurs non plus. Merci à vous, Henriette Chardac, pour cette Anatole France, une résurrection aux éditions Le Passeur. C'était l'émission Bibliomanie qui vous était présentée par Valère-Marie Marchand, qui vous encourage à aller sur le site de Radio Libertaire pour télécharger et podcaster, comme on dit, l'émission. Y a un lien, il suffit de cliquer et vous aurez notre conversation en replay, comme on dit en mauvais français. Et je remercie Flo Descailloux qui va nous passer un dernier cocktail musical.
Oui, je vais vous passer un opéra pour la transition avec l'autre émission de littérature, mais cette fois littérature prolétarienne qui vient après. Un opéra du XVIIe siècle de Barbara Strozzi, et ça s'appelle Di Porti di Euterpe. Je ne parle pas l'italien, donc je prononce sûrement mal. À Venise en 1659. Tradimento. Thank you.
Radio Libertaire 89.4.
La marche chez l'homme, la forme la plus elle est constituée par des pas successifs et l'on appelle pas l'ensemble des mouvements compris entre le moment où l'une des jambes quitte le sol et celui où elle y arrive de nouveau après avoir oscillé autour de l'articulation coxo-fémorale. Pendant cette oscillation, l'autre jambe reposant au sol en état d'extension soutient le poids du jambes en mouvement.
À démarcher là.
Jambes fixes.
Le corps tendre à tomber en avant, celui-là.
Jambes en activité.
Primitivement fléchi, ne s'étendait à son tour. Arrête
la chute en touchant le sol par son talon. Le pas est terminé.
J'habite le vent, mon corps est une flamme. Je montre les dents aux fleurs et aux gendarmes. Le soleil me suit, je ne connais pas Dieu. Le monde est mon lit, le vent souffle où je veux. Comme une chimère, comme un animal sous ma moto panthère tremble entre mes genoux. Et toi, Blanche-Neige, pauvre colombe, avec ta douce figure. Toi, Blanche-Neige, grosse colombe, retourne à tes confitures.
La main qui fait sonner l'enclume, la main qui fait chanter la plume, la main qui creuse le sillon, la main qui arme le béton. La main qui nivelle la haie, la main qui referme la plaie, la main qui tisse le coutil, la main qui fait rougir l'outil. La main qui fauche les blés durs, la main qui cueille les fruits mûrs, la main qui coule le ciment, la main qui taille le sarment. La main qui tend, la main qui grasse, la main qui coule, la main qui brasse, la main qui règle le compas. La main qui